Nous sommes le 1er février 2015 et vous écoutez un épisode un peu particulier de
Proxy. Un bonus.
Épisode bonus ramené de notre globetrotter préféré.
Fendel.
Fendel Delis.
Qui nous a ramené.
C'est son nom Delis en fait, D-E-L-Y-S.
Oui, ça fait partie du pseudo.
Ouais.
Et donc il est parti au Québec il y a quelques temps et il nous a ramené deux interviews, une du Randolph Pub et une de l'auteur de V-Commando qui avait kickstarté son projet.
Mais pas que. Donc après les deux interviews de Fanwell, on aura deux autres
Une grosse chronique de Julien. En fait, il a tout enchaîné dans sa même chronique. C'est pour ça. Ça fera une grosse. Il revient sur des événements ludiques qui se sont tenus à Montréal, si je me trompe pas, dont la journée F2Z de Philosophia pour découvrir leurs nouveautés.
Donc voilà, donc ça va nous permettre d'attendre la semaine prochaine, parce qu'on a pris un petit peu de retard, on s'est décalé par rapport aux dates. On a eu quelques soucis d'enregistrement et on enregistre que le 29, c'est ça ?
Oui.
29 janvier. On a enregistré que le 29 janvier, donc vous nous retrouverez la semaine prochaine avec la première partie du numéro 63. Alors on vous souhaite bonne écoute, et puis en attendant le numéro 63, je vous dis
bien.
Je suis Fendel et je suis avec Joël. Bonjour Joël.
Hello, ça va ?
Bonjour Joël. Qui es-tu en fait, Joël ? Pourquoi est-ce que je t'interviewe ?
Je suis copropriétaire du Randolph Pub Ludique, qui est un bar de jeux de société à Montréal, au Québec. Et je suis aussi un des fondateurs, donc ça serait peut-être une bonne raison pourquoi tu m'interviewerais aujourd'hui.
Donc le Randolph Pub, c'est un bar de jeux donc qui est situé à Montréal. Pour ceux qui savent pas où ça se trouve dans Montréal, c'est rue Saint-Denis, c'est ça ? Et donc en fait, tu peux nous parler un petit peu de la justement. Donc c'est ton projet. Est-ce que tu veux nous parler de la genèse de ce projet ?
Oui, en fait, c'était vraiment une intention. Aussi naïve qu'elle soit, de faire jouer le plus de monde possible. Et donc, quand je suis arrivé à Montréal, là, peut-être déjà 8 ans, j'avais déjà cette idée de faire jouer des gens. Et
juste, tu es originaire d'où, en fait, à la base?
Je suis originaire d'une petite région du Québec qui s'appelle le Lac-Saint-Jean, qui est en soi là, 500 km de Montréal. Il se passe pas grand-chose là, mais c'est une belle région à visiter, par exemple. Mais j'ai malheureusement dû quitter pour Montréal pour avoir des idées de grandeur. Faut aller dans les grandes villes. Là.
Et en fait, tu as quel âge? Tu es venu à Montréal vraiment pour travailler ou pourquoi, en fait, pour les études?
À la base, c'était pour étudier. J'avais des intentions d'être cinéaste. Et finalement, pendant mes études de cinéma, j'ai été engagé au Valet de cœur, qui est comme la plus grande boutique de jeux à Montréal. Et par le fait même, appris énormément de jeux là-bas. Ça m'a énormément ouvert l'esprit sur la culture ludique et sur l'idée des auteurs, des éditeurs, tout ce système-là qui m'a complètement charmé. Et j'ai fait des parallèles avec le cinéma qui était clairement facile à faire. Puis je me suis dit, waouh! Un milieu culturel qui est à zéro, qui n'a rien de fait, c'est magique. Après un certain temps, j'ai arrêté mes études en cinéma pour commencer à étudier en animation et carrément dédier ma vie à l'animation de jeu et à cette fameuse question, comment faire jouer le plus de monde possible dans tout le restant de ma vie, ça va être ça ma vocation. Donc, à partir de là, j'ai décidé de prendre les mesures possibles pour en arriver à cette solution-là.
Est-ce que je peux te demander quel âge tu as?
J'ai 27 ans. Et donc, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais 19 ans. Puis j'ai commencé à animer des jeux peut-être à 22, 23 ans. Mais avant ça, je travaillais au Valet de cœur, fait que j'étais comme conseiller de jeu. Et j'ai tombé animateur éventuellement. Là.
Et donc, comment est-ce que ça s'est fait de créer le Randolph Pub? Est-ce que est-ce que tu t'es lancé tout seul? Et comment est-ce que ça s'est passé?
En fait, à la base, j'avais une soirée par semaine qui s'appelait la soirée jeu à la récréation, qui était dans une galerie d'art historiquement et qui était pas loin.
Qui est juste à côté.
Oui, qui est juste à côté encore, puis qui font encore leur activité de jeu. Et en soi, à cette soirée-là, il y a beaucoup de monde qui venait, c'était très populaire, les gens se sont rencontrés, se sont connus à la récréation, et j'ai rassemblé autour de moi, on va dire, un noyau de gens très motivés. J'ai rencontré ma copine là-bas, qui je suis encore, et on attend un bébé d'ailleurs, et j'ai rencontré mes associés là-bas, et j'ai rencontré la majorité de nos employés là-bas. Donc, plusieurs personnes qui étaient très motivées. En soi, quand on a comme seté les choses avec mes associés, on s'est dit, on se rencontrait, on se disait, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Qu'est-ce qui apporterait les gens? Qu'est-ce qui séduirait la clientèle? Et l'idée d'un bar est devenue essentielle à cette idée de rassemblement parce que nous-mêmes, à la récréation, après, on allait passer à minuit, quand ça fermait, on allait passer 3 heures dans un bar après, jusqu'à 3 heures du matin. Fait que là, c'était pas sorcier de dire que finalement, l'amalgame des deux, parce qu'on continuait à jouer dans le bar après. Fait que finalement, l'amalgame des deux devenait logique.
Et en fait, c'était. Est-ce que ça existait déjà un bar ludique à Montréal, juste avant que vous créiez justement le Randolph Pub?
Non, il n'y avait rien de genre qui s'était créé. Il y avait eu un essai de café-jeu pour la famille qui s'appelait le Café Cajou dans le temps, mais qui n'a pas réussi à rejoindre les deux bouts, on va dire ça comme ça. Donc, il y avait eu des essais. C'est sûr que nous, on se faisait traiter de... pas nécessairement traiter, mais on se faisait dire que ça n'allait pas marcher, qu'il n'y avait pas d'argent à faire dans cette industrie-là, qu'on allait juste avoir des passionnés de fond de ruelle qui n'allaient pas... Mais moi, j'ai toujours eu l'intention de partager ma passion à un très, très large spectre de monde. Et pour moi, c'était pas... Les restrictions qu'on me donnait ne fonctionnaient pas avec ma mission. Fait que j'étais sûr qu'il fallait que je continue. C'était ça, la voie logique était celle-là. Puis, une chose qui est très importante, c'est que des 3 gars, en premier, on a acheté un 4e associé à l'organisation qui nous a énormément aidé au niveau de la promotion. C'est le comédien Normand Damour, qui est un comédien professionnel au Québec, qui est reconnu de tous les Québécois. Et lui, quand on a fait le lancement médiatique du Randolph en 2012, et quand il a été dans tous les médias, il a parlé de nous partout, les revues, les journaux, la télévision, tout le monde a parlé de nous. Et là, ça l'a complètement explosé. Et donc, ce n'était pas un hasard. On le savait qu'en utilisant Normand comme... on va dire porte-parole ou tête d'affiche de notre entreprise, ça allait beaucoup plus. Puis Normand est très apprécié du public. C'est un comédien, un excellent comédien. Il a tout le temps été honnête, il a tout le temps été gentil avec son public. Il est un peu il est dans la cinquantaine environ, fait que les gens ont pu l'apprendre avec le temps, ont pu connaître cette personne-là avec le temps. Et il a en quelque sorte, lors du lancement du Randolph, fait un peu son coming out ludique pour dire « Je suis passionné, j'aime les jeux. » Et ça l'a en quelque sorte, au niveau du mass market, du mass public, ouvert une certaine curiosité à l'essai de jeu. Donc, quand les gens venaient ici et disaient « J'en ai entendu parler à la télé à cause de Normand », là, ils voulaient essayer, ils voulaient continuer à jouer. T'sais, comme s'ils donnaient une seconde chance au jeu. C'est comme ça qu'on le sentait dans la salle. Et là, ben, quand on arrivait à leur présenter un Carcassonne, ou on leur présente un Double, on leur présente un jeu que nous, on connaît bien, puis là, à la fin de la partie, ils sont complètement enchantés, complètement déboussolés par cette nouvelle idée, cette nouvelle vague de jeux qui arrive. Donc, on prend les gens vraiment à la toute base là, de leur cheminement ludique, on va dire. Et oui, grâce à Normand. Maintenant, on peut dire que, clairement, l'impact médiatique a fait son temps et que le Randolph a réussi à, après coup, rendre la marchandise, c'est-à-dire les gens sont contents et viennent normalement au Randolph. Puis en soi, si tu demandes à un client du Randolph comment ça se fait que tu as entendu parler du Randolph, ils vont juste te dire ben tout le monde parle du Randolph. Il n'y a pas personne qui connaît pas ça. Fait que c'est rendu vraiment un bar tout à fait conventionnel, normal dans le portrait montréalais, qui est un rendez-vous, soit on va au Randolph ou à un autre bar. C'est rendu la même chose pour les gens. C'est sûr que les gens vont dire on sort pas au Randolph comme on sort ailleurs. C'est un peu plus. Je pense que les gens le prennent plus comme s'ils allaient au cinéma. Ou comme si elle est comme une rencontre sociale plus officielle, on va dire, que dans un bar normal, plus organisé en soi. Mais ça reste que on est très similaire à un bar conventionnel. Là.
Et hormis Normand Damour, donc tu as deux autres partenaires, c'est ça?
Oui, il y a Justin Bazoge qui est un passionné fini de jeu et Benoît Gascon. Et l'un et l'autre travaillent plus dans le côté administratif du Randolph, le côté organisationnel, logistique. Faut que je les en remercie pour ça parce que moi, je peux me continuer à me rendre utile dans le côté de l'animation, ce qui a fait notre force aussi, là.
Donc, si je viens un jour à Montréal, donc je vais rue Saint-Denis, j'essaie de trouver le Randolph Pub, et qu'est-ce qui se passe ensuite?
En soi, si vous arrivez un vendredi ou un samedi, vous risquez d'attendre une heure ou deux avant de rentrer à l'intérieur. Donc, déjà là, ça part mal. Fait qu'il faut planifier arriver assez tôt en soirée, parce que le bar est tout le temps plein, c'en est quasiment déboussolant de monde.
Et il est ouvert vers 16h, c'est ça?
Ouais, on ouvre à 16h en semaine et midi en fin de semaine. Puis, en soi, quand vous arrivez, on va vous assigner à une table, un peu comme dans un restaurant. Le serveur va venir vous voir. Vous allez voir que le menu est très complet. On a des potions, on a de la belle bière de microbrasserie. On a des bonnes bouchées à manger. On peut manger un repas complet ici sans problème.
Et c'est très bon, hein? J'ai mangé, c'est très bon.
Oh, super. Et ensuite, après ça, l'animateur va passer après la commande et va vous demander ben, quel genre de jeu vous intéresse ce soir. Êtes-vous motivé? Êtes-vous fatigué? Êtes-vous... Mais bien sûr, pendant ce temps-là, l'animateur va analyser le nombre de personnes dans le groupe et il va aussi analyser qui ne parle pas. Parce que des fois, il y a un motivé qui parle pour tout le monde. Puis là, après ça, on pose la question à sa blonde. Mais toi, tu connais-tu tous ces jeux-là? La blonde a dit, je sais pas de quoi il parle. Fait qu'il va falloir trouver comme un jeu qui fait plaisir à tous. L'animateur part à la bibliothèque, ramène un jeu, explique les règles en entier, laisse les gens jouer et va demander après la partie des commentaires sur l'expérience pour réaligner pour un prochain jeu par la suite. Donc, il y a vraiment une expérience complète. Et bon, bien sûr, les clients ici vont essayer en moyenne 3 jeux par soir. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, les clients ne restent pas si longtemps que ça. Ils vont rester à peu près 3 heures à l'intérieur de l'endroit. Puis, ce qui fait qu'on peut quand même avoir un certain roulement en soirée. Fait que donc, même s'il y a des gens qui attendent dehors, ils vont rentrer éventuellement puis ils vont pouvoir venir jouer. C'est même plein les lundis puis les mardis. Donc, ça bouge énormément. Puis, on fait beaucoup d'activités régulières. Par exemple, une de nos soirées les plus populaires, c'est la soirée Loup-garou du mercredi, qui est pleine de 30 à 40 personnes par soir. Et là, il a fallu faire nos propres variantes du loup-garou pour en arriver à jouer à autant de nombres en même temps. On est arrivé avec des super belles règles de modification qu'il faudrait que je propose d'ailleurs à l'éditeur parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Et on a la soirée du quiz du dimanche qui est remplie, pleine à craquer aussi à tous les dimanches soirs, qui est un quiz construit et développé par l'équipe du Randolph aussi. Et donc, c'est toujours intéressant. On fait gagner des prix. On a une belle camaraderie pendant ces soirées-là. Et aussi, on fait beaucoup de soutien pour des soirées de financement qui viennent ici et qui prennent tout le deuxième étage pour leur financement. Ça marche aussi très, très bien. Donc, en soi, on est chanceux. Tous les soirs sont très achalandés, très occupés. Il y a toujours quelque chose à faire ici. En fait, le Randolph, avec le temps, c'est construit une espèce de division qui s'appelle le Randolph Animation qui va s'impliquer à travers le portrait montréalais complet. On participe à des festivals à Montréal. Par exemple, là, il y a le Mondial des Jeux en été. On va l'animer pendant 2 semaines consécutives à l'extérieur dans le quartier des spectacles. Des espaces qui vont accueillir de l'ordre de quasiment 10 000 personnes par jour. Mm-hmm. Ce sont des gros stands d'animation. Et on va aller aussi faire de l'animation pour le festival Montréal Joue qui arrive là, dans les prochains jours, qui est un festival dans la semaine de relâche qui met de l'avant des jeux à travers Montréal en entier.
D'accord. C'est quoi la semaine de relâche?
La semaine de relâche, c'est la semaine de congé là, entre dans la session universitaire ou scolaire. Là. C'est une semaine que les enfants n'ont pas d'école. Fait que là, les parents doivent trouver des activités pour les enfants.
D'accord.
Donc, le Montréal Joue arrive directement pendant cette semaine-là pour trouver des solutions d'activités aux enfants.
Et c'est la mi-février, c'est ça?
C'est début mars. Fin février, début mars. Puis nous, par exemple, on organise la caravane ludique qui passe à travers 18... Bibliothèque de Montréal cette année en une semaine. Donc, c'est plusieurs bibliothèques la même journée.
Et en fait, pour faire ça, vous avez l'appui de la ville ou est-ce que vous avez divers appuis, je ne sais pas, politiques ou des maires ou ce genre?
En fait, on est chanceux. Parce que, autant du côté du mondial, le mondial est chapeauté par le festival Juste pour rire, qui est une très grosse organisation, dont Gilbert Rozon est le propriétaire et en soi a une volonté de faire jouer les familles au Québec. Donc, lui, par raison personnelle, il organise des activités de jeu, puis nous, on s'avère être l'expertise d'animation la plus intéressante à utiliser pour le mondial, mais il y a aussi d'autres partenaires au mondial du côté jeux vidéo et même du côté de jeux société. On fait affaire aussi avec Sociojeux, qui est une excellente entreprise également. Et du côté de Montréal Joue, c'est une volonté de la ville et des bibliothèques de Montréal dans soi d'apporter une certaine vocation plus participative aux bibliothèques de Montréal et au portrait montréalais en général. Et bien sûr, on a des bons amis là, qui travaillent au siège social des bibliothèques de Montréal et qui comprennent l'importance de l'animation des jeux. C'est toujours ça que nous, au Randolph, on met de l'avant. Le fait que l'animateur est là et va pouvoir décider quel est le bon jeu en ce moment à jouer. Là. C'est quoi le feel en ce moment? C'est quoi la bonne chose à faire? Donc, ce n'est pas que de mettre des jeux en disposition. C'est vraiment de les animer qui fait la différence. Le conseil là, et l'animation, oui.
D'accord.
Et donc, les organisations comprennent parce qu'à travers les succès, bien sûr, du Randolph, mais et les succès de leur événement, grâce à nous, ils comprennent cette espèce de roue-là qui fait que plus les gens jouent, plus ils vont vouloir jouer. Et c'est très épidémique.
On a l'impression d'un Québec, au final, qui joue énormément. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'étend au reste du Canada ou ça reste très, très francophone?
Non, je crois que ça s'étend au reste du Canada parce qu'on a un homologue à Toronto qui s'appelle le Snakes and Lattes, qui est un peu le même genre d'entreprise que nous, mais sauf que c'est un board game café, c'est comme ça qu'ils les appellent en anglais. Et le Snakes and Lattes a vraiment, un peu à la façon que le Randolph le fait pour le côté francophone, du côté anglophone, a vraiment familiarisé les gens avec l'idée des jeux dans un café. Il y a du côté anglophone, énormément de board game cafés qui se sont ouverts dans les dernières 2 années. Ça en est incroyable. Il y a des villes qui en ont 4 déjà. Et ils sont, somme toute, assez... Ils ont tous un certain succès dans leur genre. Donc, ça veut dire que c'est une mode en Amérique du Nord d'ouvrir des endroits de jeu et qui vont prospérer de bonne façon. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous, on essaie de se démarquer avec toutes sortes de choses, justement, parce que c'est un peu ça notre but pour survivre. Mais clairement, le Canada se réveille tranquillement, mais je pense qu'on joue beaucoup. Les gens jouent beaucoup, puis moi, quand j'ai des discussions avec des boutiques de partout au Québec, notre impact se fait sentir partout au Québec. Parce que les gens sont beaucoup plus curieux, sont plus alertes, posent plus de questions. Donc, l'impact du Randolph se fait sentir, même si tu n'es jamais venu au Randolph. Mm-hmm. Fait que ça, pour moi, c'est ma mission s'accomplit parce que faire le Randolph n'était qu'une stratégie pour faire jouer le plus de monde possible. Faut pas l'oublier. Et donc, pour ça, peu importe ce que Randolph fait dans l'avenir, ce n'est pas que le bar qui est important, mais bien sûr l'agrandissement du bassin de joueurs.
Est-ce que tu peux me dire actuellement le Randolph Pub, c'est combien de personnes à temps plein qui travaillent chez vous?
À temps plein, il n'y en a pas tant que ça, il y en a peut-être 4-5. Temps partiel, on va monter à quasiment une trentaine d'employés temps partiel, en cuisine, au bar, au service, à l'animation. On a un employé temps plein qui s'occupe de l'aspect boutique de notre entreprise, un autre qui s'occupe de l'aspect animation. Et en soi, on a quelques animateurs et serveurs qui sont à temps plein ici, mais la majorité sont des étudiants et qui sont très contents de travailler chez nous parce que l'atmosphère est très, très joyeuse sur le plancher. Donc, ça fait à peu près ça. Puis c'est sûr, il y a les trois associés. Fait qu'on est les trois, on travaille à temps plein dans l'entreprise aussi. C'est à peu près ça.
OK. Quels sont les jeux qui sont à la mode actuellement au Randolph Pub, alors?
En soi, dans le Euro, en ce moment, même si c'est un jeu qui date un peu, King of Tokyo est encore un très, très, très grand gagnant. Les gens l'adorent. Et les gens sont très surpris du jeu aussi parce que La majorité du temps, les gens, la dernière fois qu'ils ont joué à un jeu, c'était Risk. Là, on arrive avec King of Tokyo, puis là, ils sont complètement... ils disjonquent complètement de joie. Sinon, un jeu comme Miniville va avoir énormément de succès ici, encore une fois, parce qu'on peut faire des similarités avec le Monopoly. Ça fait que les gens sont comme « Wow! » Le Monopoly en 45 minutes. Bien sûr, Catan n'a pas besoin de se faire présenter. Les gens vont demander Catan naturellement, surtout les anglophones, qui le connaissent mieux que les francophones, selon moi. Ensuite, des jeux comme Macabana ont un très gros succès. Zavadé de Cartagena, un très gros succès. Sinon, dans les jeux de party, Dixit, on n'a pas nécessairement besoin de le présenter. Les gens le demandent naturellement. Concept, ça s'en vient déjà. Même après juste un an, les gens demandent et redemandent Concept à chaque fois. Ça a été notre jeu de l'année 2014. Je pense que Concept a été celui qui a battu tous les autres par son interaction. Même que les gens jouaient à deux.
D'accord.
Même si ça n'a pas de sens, Concept à deux, ne comptait pas les points, il faisait juste s'amuser avec le jeu, le plateau. Mm-hmm. Le Concept, c'est magique. Là. Ensuite, on a Gaïa. Qui a sorti, c'est un éditeur québécois qui l'a fait d'ailleurs, qui a une très très belle réception sur les tables parce que les gens voient la similarité avec les Aventuriers du Rail et Carcassonne, mais adorent le mix entre les deux. Sinon, il y a bien sûr du côté anglophone puis même francophone, il y a le fameux Cards Against Humanity qui est un espèce de phénomène en Amérique du Nord qui est quasiment. Les gens viennent ici quasiment. Que pour jouer à ça quelques fois. Puis on a bien sûr l'espèce de pendant francophone qui s'appelle l'hostie de jeu qui marche aussi très très bien. Wink, c'est bizarre à dire, mais dans les jeux de groupe, c'est un petit jeu qui est peut-être mal connu, mais que nous on adore faire jouer ici, qui est un petit jeu qui va jusqu'à 8 joueurs et qui finalement va falloir faire des clins d'œil aux autres sans que le reste du groupe s'en rende compte. C'est merveilleux. J'adore faire découvrir des jeux qui avec une interaction sociale très très forte. Puis qui font rire le monde. Puis les gens ici viennent en gros groupe, en très grand groupe. Ils vont venir à 8, à 10, à 12. Fait que c'est
un jeu qui s'y prête bien.
C'est un jeu qui s'y prête bien. Puis on va dire, mais là, c'est compliqué de faire des jeux. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui vont à ce nombre-là, mais il a fallu se spécialiser et trouver nécessairement des bons jeux pour ce nombre-là. On a d'autres. Un autre jeu magique là, qui fait rire, en pleurer, c'est. En français, ça s'appelle Telestrations. Vous avez un pendant français qui s'appelle. Esquisser. Ça, c'est merveilleux. Ça en est. Donc, ça, c'en est un autre que les gens vont demander systématiquement. On a 4 copies, je pense, à l'essai ici. Puis, ça peut même être dérangeant parce que si tu es à côté d'un groupe qui joue à Telestrations, tu vas entendre rire énormément. Donc, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange. Je pense que ça fait partie de l'ambiance Randolph, de se faire un peu imprégner par le plaisir des autres tables autour. Les tables sont proches, les gens sont proches les uns des autres. Et ça aussi, ça aide aussi à gagner cette espèce d'euphorie commune que ça va créer durant la soirée. C'est assez spécial de voir l'ambiance. Si tu rentres et dès la première seconde, on ressent un esprit positif qui est indescriptible. Puis je le sais parce que quand je reviens après des voyages et je re-rentre dans l'endroit, je trouve ça spécial. Même moi, mon corps le ressent, tu sais. Et il n'y a pas de mot à ça. C'est vraiment juste, c'est ça l'esprit Randolph.
Tu veux te lancer dans d'autres choses? Quelque chose éventuellement qui aura un rapport avec lancer d'autres une filiale?
En soi, on a appris notre métier un peu sur le tas. Parce qu'aucun des associés n'avait d'expérience dans les bars, dans la restauration. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire plaisir aux gens. On voulait que les gens aient beaucoup de plaisir. On se rend compte que cet objectif-là nous amène à faire des choses qui sont pas nécessairement toujours avec le jeu de société. Par exemple, les fameuses soirées quiz que je discutais tantôt, ce n'est pas un jeu de société. C'est une soirée qu'on a nous-mêmes développée, qu'on met de l'avant et que... tellement qu'en fait, il y a 6 autres bars à Montréal qui nous l'achètent et qui animent nos soirées quiz comme si c'était celle du Randolph. Donc, cet aspect-là nous amène à réfléchir que peut-être que Randolph est une culture d'entreprise qui est plus grande que le jeu de société ou en fait qui peut s'élargir plus au niveau du plaisir. Donc, on commence à avoir des idées qui sont autres que juste le bar. On commence à avoir des... Et bien sûr, ça pourrait nous amener à faire d'autres bars, bien sûr. Avec la même idée de plaisir. Même à Montréal, on serait peut-être possible d'en ouvrir un autre, des plus petits, parce que celui qu'on gère est assez grand, beaucoup place. On pourrait en ouvrir des plus petits, plus simples, plus faciles à gérer. Dans d'autres villes aussi ou du Québec, ce serait logique. Les gens, en soi, les gens nous le demandent assez régulièrement parce qu'ils sont tannés d'attendre à l'extérieur pour rentrer. Puis des fois, on est loin de leur maison s'ils restent en banlieue. Donc, à partir de là, il y aurait possibilité de réfléchir à en ouvrir d'autres avec la même culture d'entreprise. Et aussi, on est ouvert à d'autres projets de création qui vont amener... en fait, c'est bien simple. Il faut que dans nos projets, il faut qu'il y ait de l'interaction, du plaisir, et il faut que les gens déconnectent de tous les aspects, autant de leur vie que de tous les aspects de leur vie qui peuvent leur causer des problèmes. Donc, c'est un peu ça l'idée. Fait que c'est pour ça que le jeu est un outil, mais n'est pas nécessairement une finalité.
Oh, ça me semble très bien. Merci beaucoup, Joël.
Ça fait plaisir. Écoute, tu repasses quand tu veux.
Ben, peut-être. Il n'y a pas de problème. Allez, au revoir. Bonjour, je suis Fendoel et je suis avec Thibaut. Bonjour Thibaut.
Bonjour Fendoel. Enchanté.
Alors, ben, pourquoi est-ce que je suis avec toi, Thibaut? D'ailleurs, qui es-tu, Thibaut?
Tu es avec moi parce que tu es à Montréal et que donc on s'était rencontré à la Gen Con l'année dernière où je t'avais présenté V-Commando qui devait, ben, on le présentait, on préparait la campagne Kickstarter. Maintenant, la campagne Kickstarter est terminée, donc c'est un bon moment pour se parler, je pense.
Alors en fait, tu es l'auteur du jeu V-Commando qui a été fondé avec succès sur Kickstarter récemment, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Voilà.
Alors où est-ce qu'on en est actuellement du projet?
Eh bien, là, le jeu est prévu pour sortir en novembre 2015. Maintenant, on est vraiment en phase de réglage, de finition, beaucoup de tests prévus cette année là pour vraiment faire les derniers ajustements. Et puis ensuite, il y aura toute l'étape de fabrication. Donc voilà, pas mal de travail encore pour le finir.
Est-ce que tu peux nous raconter ton projet depuis le commencement? Comment est-ce que tu t'y es pris? Est-ce que c'est un travail à plein temps? Est-ce que tu gardes ton travail à côté? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, moi je viens du jeu vidéo. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la création de jeux, mais donc de jeux vidéo. J'ai quitté mon emploi il y a un an et demi donc pour me consacrer à plein temps à créer une société d'édition de jeux de plateau, parce que j'aime beaucoup les jeux de plateau depuis longtemps, même avant les jeux vidéo. Donc je suis à plein temps là-dessus depuis un an et demi sur ce projet en fait.
Ça paraît extrêmement long pour au final préparer un jeu.
Oui, je comprends. Ce qu'il faut voir, c'est que je m'occupe de beaucoup de choses moi-même. Il y a la création du jeu, il y a la création de la société, et je m'occupe aussi d'une bonne partie de la partie graphique. Donc en fait, ça prend beaucoup de temps, et créer un jeu d'expérience, puisque j'ai la chance d'en avoir fait beaucoup avant, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de tests. Moi, j'en suis à peu près 300-350 tests aujourd'hui. Et je compte en faire encore beaucoup cette année. Je pense qu'il faut beaucoup se confronter avec le public pour avoir beaucoup de retours sur le jeu. Et le jeu gagne beaucoup en qualité grâce à ça. Et comme c'est notre premier jeu, je veux absolument prendre le temps nécessaire pour le faire le mieux possible, en fait. C'est l'idée.
Donc, pour résumer, ton jeu est un coopératif où on va jouer tous des commandos américains ou britanniques ou de différentes origines pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est un jeu complètement coop. Il n'y a pas un joueur qui joue les adversaires. Donc, on joue vraiment ensemble contre le jeu, ce qui fait qu'on peut aussi jouer en solo si on veut. Et donc, c'est un jeu. Une des grosses originalités, c'est qu'il y a un système de furtivité pour vraiment coller à l'esprit des commandos, et c'est ce qui fait une grosse différence de ce jeu par rapport au dungeon crawler, je dirais, classique, où on va plutôt foncer dans le tas et faire le ménage. Là, certains joueurs arrivent par exemple à finir une mission entièrement sans s'être fait repérer par l'ennemi, c'est-à-dire sans s'être fait tirer dessus une seule fois. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est là. Il y a pas mal de nouveautés ou d'originalités, j'espère, mais là, la principale, c'est celle-là.
D'accord. Alors, actuellement, tu en es. Donc, tu as réussi avec succès ton Kickstarter. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as fait le choix de passer par la plateforme Kickstarter? Est-ce que tu avais envisagé d'aller voir d'autres plateformes, de créer ta propre plateforme? Quels ont été les choix au final que tu as fait jusqu'ici pour ça?
Alors déjà, il fallait qu'on passe par. Enfin, dès le départ, moi, je savais que je passerais par une plateforme de financement participatif. Kickstarter, pourquoi? Ben, je dirais principalement parce que c'est la plus grosse plateforme et aussi parce qu'on savait, nous, avec le genre de jeu qu'on aime et le genre de jeu qu'on aime faire, on sait que le public américain risque d'être notre public principal. Et donc, Kickstarter, pour nous, ça coulait de source, en fait. Et étant au Canada, on pouvait créer un projet Kickstarter sans problème.
Donc en fait, c'est principalement pour une question de financement, parce que tu n'avais pas les fonds nécessaires pour faire le jeu par toi-même, c'est bien ça?
Ben, en fait, voilà, c'est ça. Moi, ça fait un an et demi que je vis sur mes économies, que je paye aussi une partie les artistes qui travaillent sur le jeu. Et donc, aller voir une banque, pour moi, c'est même pas une option. Donc c'était depuis le départ, le plan, c'était ça, en fait. C'était d'aller sur Kickstarter. Et puis voilà, on est content de la manière dont ça s'est passé.
Donc tu es satisfait de la plateforme Kickstarter et de tout ce qu'elle t'a apporté?
Oui. Et surtout, je dirais, je suis surtout content des backers et je suis très agréablement surpris de la façon dont ça s'est passé. J'aurais jamais imaginé avoir un tel soutien de la part des joueurs. Et ça, pour moi, c'est la plus belle expérience de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, en fait.
Ouais. Donc, en fait, le projet a été réussi avec, c'est ça, 700 boîtes de vendus, ce que tu me disais à peu près?
À peu près, il y a 660 backers, mais il y a quelques boutiques, compris des quelques dizaines de boîtes, donc ça fait à peu près ça. Ouais.
Et donc, en fait, l'idée, c'est de produire. Est-ce que tu produiras exactement cette quantité-là? Peut-être plus? Est-ce qu'il y aura une vie après ce Kickstarter-là pour V-Commando?
Oui, bien sûr. Moi, l'idée, c'est vraiment de me lancer comme un éditeur, en fait, de jeux de plateau. Donc, c'est un projet à long terme. Moi, j'ai des idées, même sur assez long terme, pour l'instant, auxquelles je ne touche pas pour l'instant, mais qui sont assez. Voilà. Donc, il y a vraiment un plan long terme. Mon expérience dans le jeu vidéo, j'ai aussi une expérience d'édition pour avoir touché à pas mal de métiers et avoir travaillé avec beaucoup de gens dans l'édition. Pour répondre à ta question, on est aussi en discussion avec des distributeurs actuellement, américains ou européens, pour distribuer le jeu ensuite en magasin après Kickstarter. Et évidemment, ça va dépendre de ces discussions-là pour voir combien de boîtes on fait, dans quelle langue, etc. Donc j'espère qu'il y aura une vie effectivement pour V-Commando après Kickstarter. Ouais.
Donc, ce que j'ai compris, c'est que tu n'as pas encore été racheté par Asmodée.
Très bonne question. Non, on ne discute pas encore avec eux non plus. Mais non, voilà, pas encore. Non, mais je souhaite rester indépendant. C'est vrai que ma décision de quitter le jeu vidéo et de quitter un travail de salarié, c'était aussi d'avoir mon indépendance. Donc ça ne veut pas dire que ça se fera jamais. Mais c'est vrai que pour l'instant, je souhaitais vraiment gérer des projets de A à Z. Moi, c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo. J'ai fait du game design, j'ai fait du graphisme, j'ai fait de la gestion de projet. Et ça me manquait de revenir à la création. Et c'est vrai que là, je suis content de pouvoir gérer un peu tous les aspects. Avec de l'aide, évidemment, l'aide d'amis ou d'artistes qui m'aident, bien sûr. Mais voilà, c'est important pour moi de pouvoir faire ça.
Et est-ce que tu es allé jusqu'à aller là, sur les sites de production où va être produit V-Commando?
Dans les endroits où il serait fabriqué, où il pourrait être fabriqué.
Où est-ce qu'il pourrait être fabriqué déjà, a priori?
Ça, c'est une bonne question. Nous, ça fait des mois. Alors moi, j'ai l'habitude de travailler, d'essayer d'avancer tous les sujets en parallèle. C'est-à-dire que moi, les discussions avec les fabricants, je les ai commencées en février l'année dernière pour commencer à avoir des idées. Et ça aide aussi dans la conception du jeu, être certain qu'on va pouvoir fabriquer ce jeu. On ne se retrouve pas, une fois qu'on a l'argent de Kickstarter, à se dire « Mais mon Dieu, c'est beaucoup trop cher, on ne va pas gagner d'argent. » Donc, il faut quand même pouvoir en vivre au final. Donc, j'ai discuté avec plusieurs en Chine, en Europe aussi. On est encore en discussion avec eux, mais il est quand même fort probable que ça se passe avec la Chine. J'ai aussi contacté un éditeur québécois qui fabrique ses propres jeux pour leur demander si par hasard ils pourraient fabriquer ici, mais ils fabriquent que leurs jeux. Donc voilà, j'essaye toujours de chercher différentes options pour ça.
Et par rapport au Kickstarter, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti donc après ce financement réussi alors ?
Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça passe en priorité par une grosse préparation du Kickstarter lui-même. Il faut bien préparer son projet, il faut l'avancer suffisamment pour avoir suffisamment d'images, de connaissances du jeu. Pour pouvoir répondre à toutes les questions des gens, ça c'est vraiment important et ça prend des mois, pas des semaines, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, ça a vraiment pris du temps. Ensuite, il faut faire très attention. Je pense qu'il y a des dangers. Un des dangers, c'est de vouloir faire plaisir à tout le monde. J'ai entendu des Kickstarters qui ont souffert après avoir réussi, qui ont souffert parce qu'ils ont dit oui à beaucoup de backers. Ils ont fait beaucoup de changements dans leur jeu parce qu'il y avait quelques personnes qui demandaient des choses. Ils ont fait des changements dans le jeu. Et en fait, après, c'est tous les gens qui, eux, avaient backé le projet parce qu'ils l'aimaient tel qu'il était et qui, eux, se sont tous plaints en disant « mais c'est pas le jeu qu'on voulait ». Donc, c'est intéressant parce que ça peut être à double tranchant. C'est important d'être à l'écoute, mais je pense que ce qui est vital, c'est de garder le cap, de savoir exactement où on veut aller. Nous, on savait, par exemple, qu'on voudrait pas de figurines. On savait qu'on voudrait pas de zombies ni de Cthulhu. C'est un exemple. Hein. C'est un choix. C'est juste un choix éditorial. Hein. J'ai rien contre. Quand les joueurs nous ont fait ces demandes-là, parce que forcément, elles sont arrivées, on a pu leur répondre que c'est pas ce qu'on souhaitait. Maintenant, il y a beaucoup d'idées dans le jeu qui sont arrivées grâce aux backers aussi, parce qu'on savait où les portes étaient ouvertes et on savait là où on voulait rester, là où on voulait pas bouger. Ensuite, il y a un des autres dangers, c'est le montant qu'on va demander. La somme demandée a tendance, à mon avis, à être beaucoup plus basse que les réels besoins. Surtout, à mon avis, l'explication, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs établis qui n'ont pas vraiment besoin de ces sommes-là pour fabriquer leur jeu, ni le concevoir. Et donc, ils demandent une somme qui est symbolique. Parfois, c'est 20 000 $. On ne fabrique pas un jeu avec 20 000 $. Hein, faut être réaliste. Mais ils savent pertinemment qu'ils vont récupérer beaucoup plus. Ça va leur permettre d'afficher qu'ils ont fait 2000% de réussite, par exemple. Ça va leur permettre aussi d'être très, très rapidement financés. Et on sait qu'en fait, une fois qu'on est financé, là, il y a beaucoup de backers qui arrivent parce qu'il y a des stretch goals qui commencent à se débloquer. Donc, en fait, le jeu, c'est d'être financé le plus vite possible pour attirer des backers supplémentaires. Mais, donc, il y a un danger qui est que le vrai risque, comme ce n'est pas d'échouer, c'est de réussir juste à avoir la somme qu'on a demandé à la fin de la campagne. Et là, je pense qu'il y a des projets là aussi qui sont vraiment en difficulté, parce que si on a besoin de 100 000 $ et qu'on en a demandé 40 et qu'on en a 42, eh ben on est bien embêté. Et parce qu'il faut livrer le projet maintenant.
Je pense voir de quel éditeur tu veux parler en disant ça. Est-ce que tu peux nous parler, à ton avis, de, par exemple, d'un éditeur comme Funforge qui a voulu faire crowdfunder son jeu ZNA récemment?
Alors, moi, je pensais pas à eux en particulier, mais à mon avis, c'est une illustration. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que c'est une illustration de ce risque. Nous, pour donner un exemple pour V Commando, nous, on demandait 40 000 $. En réalité, moi, j'avais besoin de 100 000. Donc, ça veut pas dire que si j'ai pas 100 000, je vais pas y arriver, mais pour pouvoir vivre une année, me payer les gens qui travaillent sur le projet et de manière vraiment confortable, il aurait fallu que j'ai 100 000. J'ai un plan B qui peut m'aider derrière, donc je suis pas en situation de danger, j'avais prévu ça aussi, j'avais prévu le scénario où j'arriverais pas à 100 000, où on est arrivé à quasiment 87, donc c'est quand même vraiment bien, mais il faut avoir une roue de secours derrière, c'est vraiment important. Et le problème aussi, c'est que si vous demandez vraiment l'argent dont vous avez besoin, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Mais pourquoi toi, tu demandes 100 000 alors que tous les autres, ils demandent 40, 30, 20 ?» Et en plus, toi, c'est ton premier jeu, t'en as jamais fait. Donc en plus, il y a un risque supplémentaire. Donc il y a un côté dangereux comme ça. Voilà. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et moi, mon conseil, c'est d'avoir un plan B derrière pour pouvoir compenser le manque. Ou alors, vous avez l'argent vous-même. Voilà, et dans ce cas-là, ça marche. Un autre danger, si je continue dans les choses un peu risquées, c'est les extensions. On voit des projets comme le nôtre qui arrivent, le jeu n'existe pas encore et il est déjà proposé des extensions. Et c'est aussi un des moyens sur Kickstarter pour arriver à la somme dont on a besoin, c'est de proposer des bonus, des add-ons ou des choses à la carte ou alors des extensions. Et là aussi, je dirais, il faut faire vraiment attention. Enfin, nous, ce qu'on a essayé de faire vraiment, c'est d'avoir des extensions qui ne chamboulent pas complètement le gameplay. C'est-à-dire que on apporte des missions en plus, on apporte des personnages supplémentaires, mais on ne va pas être obligé de complètement rebalancer le jeu avec ces extensions ou ce contenu supplémentaire, parce que sinon on est reparti pour des années de tests, enfin d'après moi, des années où en tout cas ça va retarder vraiment le jeu. C'est ce qui explique aussi sans doute des jeux qui arrivent avec 1 an, 2 ans, 3 ans de retard. J'espère qu'on sera à l'heure, nous, mais je veux dire, c'est un des dangers, c'est on propose plus, mais après il faut le créer et surtout il faut le tester et l'équilibrer, et les gens vous poussent pendant la campagne. Il y a beaucoup de backers qui me disaient, mais pourquoi tu rajoutes pas des cartes, des missions, des personnages, etc., etc. C'est pas cher, c'est rien. C'est vrai qu'à produire, c'est pas cher, mais après, il faut le tester, et ça c'est vraiment dangereux. Donc voilà. Si j'ai un autre conseil, c'est faire vraiment attention à ça, et aussi aux stretch goals. Les stretch goals peuvent aussi se retourner contre vous s'ils n'ont pas été bien calculés en financièrement, et puis encore une fois au niveau du jeu. Ça peut aussi déséquilibrer votre jeu et poser des problèmes. Voilà, donc tout ça est très négatif. Évidemment, il y a plein de choses très positives, mais c'est juste des mises en garde que moi j'ai rencontrées. On les a anticipées globalement. Donc j'espère que ça se passera bien, mais voilà, c'est les conseils que je souhaitais partager.
En fait, il y a quelque chose qui m'étonne dans ton projet, Thibaut, c'est que au final, ce que tu me dis, c'est que tu as proposé un prix pour un jeu, mais tu n'es pas encore certain du prix auprès des fabricants.
Si, ça là-dessus c'est assez béton. Justement, nous, les discussions qu'on avait avec les fabricants depuis l'année dernière, depuis un an maintenant quasiment, on a eu beaucoup de devis, on a eu beaucoup d'échanges avec eux, on les a rencontrés à la Gen Con aussi pour pouvoir leur montrer le jeu concrètement, avoir leurs conseils. Donc non, au contraire, on a une idée très précise du coût du jeu, du coût de fabrication. C'est grâce à ça qu'on a pu fixer nos prix, en fait, c'est sûr.
Et concernant la distribution, en fait, donc tu as prévu d'avoir uniquement 700 boîtes, ou tu vas aller un peu plus loin éventuellement?
Ben, nous, en fait, on compte passer par des distributeurs établis, des distributeurs de jeux de société. Donc, je disais tout à l'heure, en fait, on est en discussion avec plusieurs d'entre eux. Les discussions commencent. Il y a des gens qui se sont montrés intéressés pendant la campagne Kickstarter. Il y a des gens avec qui on était en discussion depuis la Gen Con, même un peu avant, qui avaient découvert le jeu. Donc, on espère, ben, grâce à eux, effectivement, que le jeu arrivera dans les boutiques en Europe et dans le monde entier, en fait.
Et sinon, est-ce que tu as un endroit où tu géreras les stocks, un hangar ou quelque chose comme ça, ou comment est-ce que ça va se passer?
Bah alors, en fait, pour l'instant, on a plusieurs options. On va gérer, on va travailler avec Philibert, en fait, pour la France et l'Europe. On est très content pour l'instant de la façon dont ça se passe avec eux. On a des très bons échos. Moi, j'ai vraiment une grande confiance en eux. Donc, et puis je trouve ça bien de travailler avec plutôt avec des gens comme ça, plutôt qu'avec, on va parler d'Amazon maintenant, parce qu'on va aussi travailler avec Amazon, mais plutôt pour l'Amérique du Nord, qui eux peuvent effectivement stocker et puis gérer les envois. Donc on va travailler avec eux effectivement après le Kickstarter pour ça. Voilà.
Et ça, c'était moins intéressant pour l'Europe, ou alors c'est juste une question d'affinité ou...
Ben je t'avoue que non, c'était pas trop posé de questions. C'est difficile, en fait, d'être à fond sur tous les sujets, surtout que moi je suis un peu tout seul à plein temps sur le projet. On avait prévu, nous, d'aller avec Amazon partout, et on a été contacté par Philibert, et puis on a discuté avec eux, on s'est appelé, enfin ça s'est bien passé. Du coup, avant le lancement de la campagne, on a discuté avec eux, puis on s'est mis d'accord pour travailler ensemble.
Voilà. Et la plus-value vraiment d'Amazon, c'est qu'ils stockent tes boîtes. Au final, c'est ton distributeur, exactement comme un distributeur de jeux de société. Quels seraient les avantages et les inconvénients de passer plutôt par Amazon que par Asmodee ou quelque chose comme ça?
Quand je parle de distributeur, moi je parle plutôt d'Asmodee ou d'Yello ou de gens comme ça. C'est plutôt avec des gens comme ça que nous on va travailler après, vraiment pour distribuer le jeu dans les boutiques et dans les magasins. Et quand je parle d'Amazon et Philibert, pour l'instant c'est vraiment pour l'après Kickstarter, en fait, pour l'envoi des boîtes. Pour la suite, suite. Je pense qu'il faudra discuter et voir avec eux comment ça se passe. Mais je sais que Philibert, il propose, on peut éventuellement faire ça aussi avec eux. C'est-à-dire qu'ils pourraient stocker et continuer de gérer les envois après. C'est une possibilité dont on a commencé à discuter, mais on n'a pas été plus loin pour l'instant.
Et donc en fait, Amazon, ça serait ton livreur, c'est ça ce que tu veux me dire?
Oui, pour la campagne Kickstarter, oui, tout à fait. Après, on peut aussi voilà, ouvrir une boutique et puis qui gère un peu gérer un peu de stock chez Amazon, en fait.
D'accord. Et quel est, dans ce cas-là, l'intérêt par rapport à des... Moi, j'aurais vu un classique, genre UPS ou ce genre de choses. Hein. Il y a beaucoup de ce genre de distributeurs, enfin de... Voilà, de livreurs aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, je veux dire.
Je pense que ça va jouer au niveau des coûts et que ça va, parce qu'en fait c'est assez compétitif. Nous, si tu veux, j'ai été sur le site de Stonemaier Games de Jimmy Stegmaier qui donne des conseils absolument incroyables sur Kickstarter en général. Et pour moi, j'ai qu'une adresse à donner si vous cherchez des informations, c'est d'aller sur son site, c'est en anglais, mais lui, il se pose pas la question. Il a étudié vraiment beaucoup de systèmes. Il fait généralement des livraisons gratuites pour tous ses jeux dans le monde entier et il utilise Amazon. Donc j'ai pas cherché vraiment plus que ça.
Ça doit pas être un mauvais choix alors.
Non, voilà, c'est ça. Je pense que je fais vraiment confiance. C'est quelqu'un de vraiment réputé en termes de Kickstarter en tout cas. C'est vraiment une référence. Donc voilà.
Merci beaucoup Thibaut, c'était super. Et puis bon, on va faire une partie de V-Commando maintenant.
Ok, merci beaucoup.
Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, salut la Proxy Team. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux événements qui se sont tenus à la belle ville de Montréal, donc au Québec, au Canada. L'année dernière, fin 2014, il y avait les journées F2Z, donc Philosophia to Z-Man, et le Salon du Jeu de Montréal. Il faut savoir que les deux événements se sont tenus à 2 semaines d'écart, et je vais un peu vous raconter l'expérience que j'ai vécue dans ces deux événements. Le premier, c'était donc la journée Philosophia to Z-Man Game. C'était au collège à Hunsic, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment un grand salon avec 3 salles, une qui était dédiée à la vente, une qui était dédiée aux jeux de type familiaux et une qui était dédiée aux jeux, enfin ça s'appelait la zone stratégie. En fait, c'était les jeux plus gros, un peu les jeux de gestion, les gros jeux comme on a pas mal l'habitude de parler sur ce podcast. Le premier point que je voulais souligner, c'est déjà initialement, il y avait un cadeau d'inscription. Donc si tu t'inscrivais dans les 100 premiers, tu gagnais une boîte de jeux. Et en plus, il y avait un tirage au sort où il y avait 5 lots qui étaient tirés, je crois. Et en fait, dans les lots, tu avais 2 boîtes de jeux et tu avais plein de petits trucs assez marrants, de goodies. Genre, tu avais les goodies de Carcassonne, les bacs à glaçons de Carcassonne, tu avais une grosse peluche de Meeple Carcassonne, etc. C'était vraiment marrant. Le jeu qu'on a eu en cadeau dans les préinscriptions, c'était le jeu de l'opération Nez Rouge. Alors, je vous réfère à Internet pour aller voir ce que c'est. C'est un jeu qui a été fait en collaboration avec Cocktail Game, qui est très marrant à jouer, qui est un peu basé sur le même principe que Arctet, pour ceux qui connaissent. Pas le jeu du siècle, mais c'est assez amusant. On passe un bon moment à jouer et c'est un bon clin d'œil fait par les organisateurs. Et surtout, en fait, ce jeu, chaque boîte vendue, il y a $1 ou $2 qui est remis à l'association Nez Rouge. C'est donc une bonne chose. Ensuite, je vais vous parler de la salle familiale. Alors, dans la salle famille, il y avait facilement une 15aine de jeux en démonstration. C'était des jeux pour toute la famille, comme son nom l'indique. J'ai eu l'occasion d'en tester 4, j'en parlais de 2. J'ai eu l'occasion de tester Miniville. Je vais pas vous réexpliquer comment ça fonctionne parce que ça a été dit et redit. Juste pour vous donner les informations intéressantes pour ce type de jeu. Est-ce qu'on peut jouer avec toute la famille? Oui. Est-ce qu'on peut jouer avec juste des enfants? Oui. Est-ce qu'on peut jouer avec un public de joueurs? Non. Enfin, on peut, mais faut pas s'attendre à avoir des grandes sensations de stratégie, c'est du lancer de dés et puis on voit ce qui se passe. Donc c'est vraiment pas un jeu où on se prend la tête. Jeu familial pour jouer en famille, avec des enfants, avec des amis pas joueurs. C'est ça, c'est agréable à jouer. On avait aussi joué à Globes, appelez ça comme vous voulez. Jérémy et Olivier en ont déjà parlé il y a pas longtemps dans Proxy Jeux, donc je vais pas m'éterniser. Juste dire que c'est le mariage de Bazar Bizarre, vous savez, le jeu où fallait attraper le fantôme, et Jungle Speed, le jeu où fallait attraper le totem. C'est très marrant. J'avais pas prévu de faire 2 parties, juste me faire expliquer les règles. Puis il y a une jeune fille qui est arrivée et qui voulait faire une partie, donc on était 3 avec ma copine elle, donc on a fait un peu une partie pour voir ce que ça donnait. Tu t'amuses bien. C'est pareil, hein, c'est pas un jeu C'est une fois que t'as fait ton Kélus, tu peux faire ça pour décompresser, mais pas plus, quoi. Par contre, quand t'es avec des enfants, quand t'es avec des pas joueurs, quand t'as envie de pas te prendre la tête, de faire un petit jeu d'apéro pour t'amuser, c'est très très bon. Donc je le conseille vraiment dans ce sens-là. Ensuite, on est allé dans la zone stratégie qui était l'objectif caché de notre voyage parce que je voulais absolument essayer Five Tribes. Le premier jeu qu'on a essayé, c'était Carcassonne ruée vers l'or. Pour ceux qui connaissent le Carcassonne de base, vous n'allez pas être dépaysé, c'est vraiment la même chose. On construit le paysage, on pose nos meeples, etc. Les routes sont remplacées par des chemins de fer, les villes sont remplacées par des montagnes minières. Il y a énormément de similarités. Il y a quelques petites différences qui font le sel du jeu. Notamment, t'as un meeple en forme de tente, donc un tente-peul. Et en fait, ce tente-peul, tu peux aller le poser quand à ton tour, tu sais, tu poses une carte, mais que tu décides de pas poser de meeple, tu peux aller poser ta petite tente sur une montagne minière occupée par un autre joueur. Et en fait, sur les montagnes minières, au fur et à mesure que tu les développes, selon une règle qui est super basique, tu poses des petits jetons face cachée, qui sont en fait des jetons pépites d'or. Et en fait, quand tu fermes une montagne, tu ramasses tous les jetons pépites d'or. Mais si pendant que la montagne est en construction, toi, tu as une tente sur cette montagne, tu peux récupérer par tour un jeton mine d'or, pépite d'or. Et à la fin de la partie, tu fais le scoring normal comme dans Carcassonne, et tu retournes tous tes jetons pépite d'or, et ils scorent entre 0 et 3 points chacun. Alors il y a un certain nombre de 0, beaucoup de 1, assez de 2 et quasiment pas de 3. Donc en fait, le scoring, c'est assez bien équilibré. Ça rajoute un aspect chaotique dans le jeu, parce que ce qui est sympa dans Carcassonne, c'est que tu sais exactement ce qui se passe quand tu poses ta tuile, t'arrives toujours à compter les points des autres, etc. Donc il y a cet aspect-là que tout le monde aime dans Carcassonne. Là, ça rajoute un peu un truc aléatoire, c'est qu'à la fin, tu retournes tes jetons, et si t'as pas eu de bol et que t'as tiré que des 0 ou 1, des 0 pépites d'or ou 1 pépite d'or, tu vas être défavorisé par rapport à quelqu'un qui a eu beaucoup de chance et qui a tiré que des 3, par exemple. Alors, tu peux avoir le même nombre de jetons, mais il va faire 25 points de plus que toi. Alors, on aime ou on n'aime pas, personnellement, moi, ça me dérange pas. Ce Carcassonne, tu le sors rarement pour faire une partie d'un jeu où il n'y a pas de hasard, sinon tu ne le sors pas. Quand j'y joue avec des amis qui sont pas trop joueurs ou qu'on a envie de se faire une partie de jeu sans se prendre la tête, il sort vraiment souvent, c'est agréable. Je vais vous donner un pour et un contre. Le pour, c'est la petite règle avec la tente qui, à mon avis, ajoute un truc à Carcassonne, c'est l'interactivité, puis aller faire chier les autres joueurs, ce qui est jamais désagréable. Le contre, c'est que toutes les extensions qui ont été faites pour le Carcassonne classique vont pas être fonctionnelles avec Carcassonne ruée vers l'or, parce que c'est pas du tout les mêmes graphismes. Personnellement, si vous avez aucun Carcassonne et que vous voulez vous en offrir un, j'irai vers Rue et vers l'or pour cette petite règle où on peut aller s'amuser avec les autres. Et si vous n'avez pas envie de faire cette interaction avec les autres, vous enlevez les tentes, vous enlevez les petits jetons mine d'or, et puis vous jouez comme ça, et vous avez l'équivalent du Carcassonne normal. Ça vous fait pour le même prix une petite règle en plus, c'est toujours agréable. Après, on a eu l'occasion de tester Five Tribes, donc on était 3 plus une personne qu'on connaissait pas. C'est un peu l'avantage des salons, c'est comme dirait le mec de comment s'appelle ce film, Fight Club. On se fait des amis à usage unique pour une partie de jeu, puis c'est toujours marrant. Five Tribes, excellent jeu. Je vais pas redécrire le mécanisme. Hein, le jeu a bénéficié de beaucoup de communication, donc je pense que tout le monde sait comment ça marche. Pour ceux qui savent pas, je vous renvoie vers les anciens épisodes où Jérémy et Olivier en parlent. Ou bien une vidéo sur TrickTrack ou Ludovox, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui l'a fait. C'est sûr que vous pouvez trouver une vidéo du jeu qui tourne. Le jeu est vraiment excellent, je vous le conseille. Pour un public de gens qui sont habitués à faire des jeux de stratégie où on réfléchit un peu, c'est juste génial. Avec des gens qui vont jouer plus à l'emporte-pièce, je suis sûr que le jeu tourne bien aussi. Le seul petit problème, c'est que c'est un jeu où la partie elle va durer entre 30 et 45 minutes, on va dire, en fonction du nombre de personnes et des personnes qui sont autour de la table. Quand tu joues à l'emporte-pièce sur un jeu de 45 minutes, des fois t'es frustré à la fin. Enfin, en tout cas, moi ça me le fait, donc je suppose que ça le fait aussi à d'autres. Donc j'hésiterais un peu à le sortir avec des gens qui ont pas envie de faire un jeu vraiment en se prenant la tête, parce qu'il y aura cette frustration en fin de partie, c'est sûr. Et pour moi, si une personne est frustrée à la fin d'une partie, c'est qu'on n'a pas fait une bonne partie, qu'on s'est pas bien amusé, fait que j'hésiterai à le sortir. dans ces cas-là. Mais dans les cas où on a un public de gens qui ont envie de faire un jeu, où tu te prends un peu la tête, tu réfléchis à tes coups, foncez les yeux fermés. J'ai testé à 2, c'est pas mal. On a joué à 4, c'est vraiment bien. J'ai pas testé à 3, mais il n'y a pas de raison que ce soit moins bien. Fait que allez-y, foncez, allez-y les yeux fermés. Il y avait aussi une dizaine d'autres jeux en démonstration. Malheureusement, j'en ai pas testé d'autres. Là, après, je vais rapidement parler de la boutique. La boutique, c'était des ventes hors taxes. Faut savoir que quand tu habites en Amérique du Nord, tous les prix sont affichés hors taxes et après, faut rajouter les taxes à ton achat. Là, c'était pas le cas. Tu rajoutais pas les taxes, donc ça faisait que tu payais tes jeux 13-15% moins cher, donc c'est toujours intéressant. T'avais au moins 70 références en boutique, j'exagère pas, il y avait tous les Carcassonne, tous les Pandémies, énormément d'autres jeux de plusieurs distributeurs, de plusieurs éditeurs, donc du coup j'ai pas exactement compris qu'est-ce qui était rassemblé dans la boutique. Au début je pensais que c'était tous les jeux de philo-philo, mais c'était pas ça, j'ai l'impression, donc j'ai pas exactement compris qui était représenté par la boutique, mais tout ça pour dire qu'il y avait énormément de jeux à acheter à pas cher du tout. Donc c'est toujours agréable aussi. Nous, on est parti avec Carcassonne, avec la promesse d'acheter Five Tribes dans les 2 semaines qu'on suivit. En fait, on l'a acheté dans les 3 semaines qu'on suivit, mais on a craqué quand même. Je vais pas parler plus de 12 minutes sur le salon, parce qu'après, j'en ai un autre à aborder, donc je vais passer à ma note globale. C'était excellent. C'est-à-dire que dans aucune des deux salles, on a eu à attendre plus de 1 minute quand on était assis à une table pour voir si pour qu'il y ait un volontaire, enfin un bénévole qui vienne nous expliquer les règles du jeu. Les bénévoles connaissaient toutes les règles de tous les jeux qu'ils présentaient. Si jamais ils avaient un trou de mémoire, ils n'allaient pas t'inventer une règle qui allait te pourrir la partie. Ils te l'avouaient, ils disaient « bon, bah laisse-moi 2 minutes, je vais regarder dans les règles, machin, machin ». Si tu étais en train de faire une partie et que tu oubliais une règle, tu levais la main, il y a un bénévole qui venait tout de suite te voir pour t'expliquer les règles du jeu. Même s'il y avait énormément de monde, j'ai jamais attendu plus de 2 minutes pour m'asseoir à une table. Pour moi, c'était un sans faute. C'est vraiment, quand t'as beaucoup de tables pour jouer, beaucoup de jeux disponibles, beaucoup de bénévoles qui t'expliquent les règles du jeu, que l'organisation elle est vraiment bien, que t'as une boutique qui en plus te vend les jeux moins cher que dans les autres commerces parce que c'est hors taxe, c'est un sans faute. Pour moi, ça a vraiment, vraiment été un sans faute. Merci Philosophia Ziman d'avoir fait ça. Et j'espère que vous allez le refaire l'année prochaine. C'est sûr que je serai présent l'année prochaine. Je pense que ça a été un carton cette année. Si vous le refaites, ce sera un carton. Je sais que la semaine d'après ou 2 semaines après, ça a été fait dans la ville de Québec. Pareil, ça a été un carton. J'ai un ami qui était, il m'a dit que c'était rempli. Très très bon événement, excellent événement. Et je vous le surconseille s'il se refait dans le futur ou s'il se fait dans d'autres villes. Quelques semaines après, il y avait le Salon du jeu de société 2014 qui était organisé par Ludo Québec. Alors, il se déroulait sur 2 jours et un soir, enfin un soir et 2 jours. Le premier soir, en fait, c'était le off. Donc là, c'était l'entrée payante qui était 10$ par personne. Et en fait, tu pouvais jouer à tous les jeux des scènes en primeur. Alors malheureusement, je peux pas vous en parler parce que j'ai pas pu m'y rendre. Je peux vous donner les bruits de couloir que j'ai eu le lendemain. Il paraît que c'était une très bonne organisation, que tous les jeux étaient là. Que pas tous les jeux des scènes, hein, il n'y avait pas 5000 jeux, entendons-nous, mais que tous les jeux qu'on cartonnait à SN étaient présents. Fait que les gens, ils en parlaient avec le sourire. Apparemment, il y avait beaucoup de bénévoles aussi qui étaient là pour expliquer les règles du jeu, etc. Ce que j'ai entendu les gens dire, c'est que vu que le monde qui était présent, c'était des passionnés, la plupart connaissaient déjà les règles du jeu via toutes les possibilités qu'on a sur Internet de voir des vidéos des jeux, les promotions, etc., etc. Les 2 autres jours, donc le samedi et le dimanche, il y avait des tournois de jeux qui étaient organisés, des quiz, etc. Donc il y avait vraiment une organisation avec des événements heure fixe et tout le reste du temps, tu pouvais te balader dans le salon, faire des jeux, etc. Au niveau des boutiques, il y en avait plusieurs qui étaient représentées. Il y avait la boutique chez Geek, la boutique des Trois Lys, évidemment le Valet de Cœur qui était présent. Il y avait aussi un stand du Randolph Pub Ludique qui mériterait que je fasse une chronique entière pour vous parler de ce pub ludique à Montréal et ce qu'il a apporté à Montréal, parce que depuis qu'il a ouvert à Montréal il y a un peu plus d'un an, j'ai l'impression qu'en fait il a accompagné le jeu à Montréal et que l'explosion du jeu à Montréal est vraiment liée. Ça jouait déjà beaucoup à Montréal, le Valet de Cœur était là depuis très longtemps, mais depuis qu'il y a le Randolph Pub Ludique, il y a plein d'événements, enfin c'est, je note une corrélation en tout cas entre les deux. Il y avait aussi beaucoup d'éditeurs qui étaient présents. Il y avait le Scorpion Masqué, évidemment. C'est Christian Lemay qui était là. C'est marrant, je dis ça comme si c'était une grosse célébrité et que je le connaissais personnellement. Non, je l'ai juste vu sur Trick Track et j'ai retenu le nom. J'ai été un peu vite sur Scorpion Masqué. Scorpion Masqué était là, il y avait leur jeu qui était là. Il y avait Christian qui expliquait les jeux. Il était vraiment disponible, il explique toujours aussi bien les jeux, aussi bien en vrai que dans les émissions sur internet. J'ai un peu discuté avec lui après une partie, super sympa, super agréable, super disponible. C'était vraiment une bonne expérience aussi, puis je souligne ça. Il y avait aussi des gars qui étaient là, qui avaient une société de micro-édition de jeux. Cette société de micro-édition de jeux, elle s'appelle Jeux Catharsis. Donc c'est K-A-T-H-A-R-S-I-S. Jeux Catharsis. Je vous conseille d'aller voir un petit peu ce que ça donne sur internet. C'est très, très sympa. Donc ils présentaient deux jeux. Un qui s'appelle Tampica, un qui s'appelle La route vers Nouvelle-Éden. Je vais pas vous les présenter maintenant. Je vous les présenterai dans une autre chronique dans le futur. J'essaierai peut-être même d'aller en discuter avec eux directement. Pourquoi pas? Ce que je peux vous dire, c'est que Tampica, c'est un jeu qui existe en mode carte ou en mode plateau. C'est strictement identique les uns et les autres. Disons que le plateau sert à disposer tes cartes de manière ordonnée. C'est un jeu de gestion qui est très solide. J'ai fait une partie à deux avec un ami, donc la partie à deux vaut le coup si tu fais une partie longue. Si tu fais une partie courte, je suis pas sûr que le jeu soit intéressant. Si tu fais une partie longue, le jeu devient très intéressant. Tu construis tes bâtiments, ta stratégie, il y a vraiment quelque chose. Si tu fais des parties à beaucoup, c'est encore mieux à mon avis à partir de 3-4, il me semble que c'est jouable jusqu'à 5, à vérifier sur site internet encore. Il y a énormément d'interactions, tu peux aller attaquer les uns les autres, s'allier pour faire des attaques, faire des coups de cochon, on va dire, pour pas être vulgaire, faire des coups de cochon aux autres, c'était vraiment intéressant. Et l'autre s'appelle Route vers Nouvelle-Éden, c'est... Allez, j'allais le dire, c'est la version un peu améritrash, un jeu un petit peu améritrash, mais pas trop. En fait, c'est très proche du jeu de rôle. Chacun a son personnage qui a des caractéristiques spéciales. Pour faire une action, tu vas lancer un dé comparé à tes caractéristiques. C'est en ce sens-là que c'est très proche du jeu de rôle. Le jeu est super simple, vraiment entraînant. Et il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est que dans le même jeu, tu peux jouer en mode solo, en mode coopératif, en mode compétitif, en mode par équipe, coopératif et c'est celui qui gagne le plus, en mode par équipe compétitif. Il y a des modes de jeu spéciaux, donc t'as le mode de jeu normal, t'as un mode de jeu spécial qui s'appelle sécheresse, un mode de jeu spécial qui s'appelle famine, qui eux aussi sont jouables en solo, compétitif, par équipe. Fait que t'as énormément de modes de jeu pour une seule et unique boîte. Ça, je trouve, c'est une excellente idée de leur part. Ça fait que tu as un jeu qui est extrêmement rejouable. Je vous conseille vraiment d'aller voir leur site internet, d'aller un peu lire les règles de leur jeu et de les commander si ça vous intéresse, pourquoi pas. Tampica à 2 sur une partie courte, j'ai trouvé ça bien mais pas top. À 2 sur une partie longue, je sais que j'aurais aimé. À plus que 2, j'ai vu les parties, ça a l'air vraiment excellent. La route vers Nouvelle-Éden, j'ai essayé en par équipe et en compétitif. J'ai pris plaisir les deux fois, c'était vraiment bon. Fait que je vous conseille vraiment d'aller voir Catharsis, puis je rends hommage. C'est aussi une très petite boîte, ils font de la micro-édition, donc pour une fois qu'il y a un média qui... Enfin, pour une fois, là qu'il y a un média qui en parle, profitons-en. Donc Catharsis Game. Je vais arrêter cette chronique maintenant parce que je parle depuis bientôt 17 minutes, j'ai l'impression. Donc j'aurai présenté les deux salons, j'aurai un peu présenté le jeu au Québec, j'ai plusieurs idées pour d'autres chroniques dans le futur. Fait que je vous reviendrai avec des nouvelles idées, des nouvelles chroniques. Et en attendant, j'ai qu'une seule chose à vous dire, la même chose que tout le monde, c'est-à-dire jouez bien! Ha ha ha!